On va parler du président américain Donald Trump, car dans un message adressé au premier ministre norvégien, eh bien le président américain a déclaré qu'il ne voulait plus penser uniquement à la paix depuis que la Norvège avait refusé de lui délivrer le prix Nobel du même nom de la paix. Donc une déclaration qui pose question alors que le chef d'État américain œuvre à la création d'un conseil de la paix pour Gaza. On tente de décrypter tout cela avec Isaac Franco, géopolitologue et consultant dans l'émission Chercher l'erreur. Chercher l'erreur, c'est chaque lundi de 17 à 18h sur Radio Judaïka. Et Isaac Franco s'exprimait hier soir au micro de Jonathan Serrero.
Isaac Franco, bonjour. Les déclarations du président des États-Unis vous surprennent-elles? Comment les analyser? Est-ce qu'elles sont inquiétantes?
Cette déclaration qu'il n'est plus disposé à chercher à résoudre les conflits et à faire la paix partout dans le monde. Bon, c'est une déclaration un peu à l'emporte-pièce. J'ai pas eu le Nobel, donc je vais cesser désormais de m'occuper de la paix dans le monde. Ça n'a aucun sens. D'autant que concomitamment, il y a la création du Board of Peace, qui est une organisation internationale dont la charte prévoit la solution de tous les conflits dans le monde. Donc on voit pas très bien la cohérence.
Le dossier, c'est que Donald Trump veut s'emparer du Groenland et veut attaquer l'Iran. Donc il y a là une sorte de concomitance entre les déclarations et ce que souhaite faire Donald Trump.
Oui, mais je vois pas tellement le rapport avec sa déclaration. C'est une déclaration, bon, typiquement trumpienne, qui est marquée du sceau de la frustration. Il n'a pas eu ce hochet du prix Nobel, et donc je ne vais plus m'investir dans la recherche de la paix partout où il y a des conflits. Encore une fois, je répète, le Board of Peace. Mmh. Sa raison d'être, c'est la résolution des conflits. Maintenant, pour ce qui est du Groenland et de l'Iran, chercher à résoudre des conflits existants ne veut pas dire qu'on n'est pas capable d'en déclencher d'autres. Pour le Groenland, c'est une question de sécurité nationale américaine. Ils estiment que par tous les moyens, ils vont prendre le contrôle du Groenland, quelles que soient les oppositions, quelles que soient les résistances des pays européens, parce que pour eux, à la fois pour des raisons de sécurité nationale et de l'exploitation des hydrocarbures et des terres rares, il est indispensable que les Américains y exercent un contrôle absolu. Il faut noter à cet égard au Groenland, et ça c'est particulièrement intéressant, qu'il y a un traité qui date depuis 1951, qui autorise les Américains à avoir une présence aussi importante qu'ils le jugent nécessaire. Ce traité interdit aux Danois ou aux Groenlandais ou à qui que ce soit, il faut savoir que Groenland n'appartient pas à l'Union européenne, interdit à qui que ce soit d'empêcher les Américains d'avoir une empreinte aussi large que possible sur le territoire du Groenland. Pas besoin donc ni de l'acheter, ni de le conquérir, ni de l'annexer. Ils ont déjà cette possibilité. Par ce traité de 1951, dont on commence seulement à parler maintenant, les Américains ont déjà une base, celle de Thule ou de Pifutik, qui se trouve au nord-ouest du continent du Groenland. Et donc, c'est pas la raison suffisante, puisque les Américains, pour les raisons de sécurité nationale, ont déjà la possibilité de faire passer la base de Thule de 150 hommes à 15 000 ou à 20 000 en un clin d'œil. Dès demain matin, ils pourraient le faire et personne ne pourrait s'opposer, eu égard au traité dont je parle. Donc il y a une autre raison. Une autre raison, eh bien, c'est la richesse du continent. C'est l'extension du territoire américain et c'est l'exploitation des hydrocarbures, également des terres rares, qui conditionnent la prospérité du fait qu'elles vont... ça va être la base de l'économie de demain, c'est l'intelligence artificielle, c'est les nouvelles technologies qui exigent des terres rares en quantité de plus en plus importante. Et donc, c'est ça la raison principale. Et je ne vois pas comment les Européens vont pouvoir... s'opposer à cette volonté américaine. Quant à l'Iran,
alors Isaac, oui. On va parler de l'Iran tout de suite. Oui. Avant cela, on va revenir sur la question du Conseil de la paix. Les Européens ont l'air de s'opposer à intégrer ce Conseil de la paix. Donald Trump a proposé au président Poutine d'intégrer ce Conseil de la paix pour la bande de Gaza. Il a proposé aussi au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Que cherche Donald Trump à travers ce Conseil de la paix? Certains lui prêtent l'intention de remplacer l'ONU.
Alors, je ne sais pas si c'est une intention consciente ou bien cette création du Board of Peace revient en définitive à créer une organisation internationale parallèle et qui conteste l'impérium des Nations Unies créées en 1945. Donald Trump fait le constat que l'ONU n'a servi à pratiquement rien, à résoudre aucun conflit sur Terre, qu'elle est impuissante et qu'elle est ontologiquement impuissante, qu'on ne peut pas améliorer la capacité de l'ONU de résoudre ces conflits et donc de jouer le rôle pour lequel elle a été créée. Et donc cette organisation parallèle, ce Board of Peace, s'il se met finalement en place, parce que tout dépendra naturellement de la participation des invités et du caractère réaliste de ces objectifs, oui, effectivement, il y a quelque chose qui ressemble à une organisation parallèle destinée à remplacer l'expression la plus achevée de l'ordre du droit, de l'ordre international tel qu'il est né de la Deuxième Guerre mondiale. Le droit international est une des victimes depuis le 7 octobre, puisque c'est au nom du droit international qu'on n'a pas cessé de condamner Israël, alors que on exonérait la Chine, l'Iran, la Corée du Nord, la Russie de toute condamnation. Donc, si le droit international revient à contraindre les démocraties à l'impuissance et à être condamné et à être mis tout le temps dans le box des accusés, et donc priver ces démocraties des moyens de lutter contre les dictatures et de se protéger, eh bien, cet ordre international a failli. Et donc, il y a cette création du Board of Peace qui prend en compte le fait que le droit international tel qu'il existe aujourd'hui profite aux dictatures, profite aux tyrans et en réalité menotte les démocraties et les empêche de se défendre contre les menaces que ces démocraties ont devant elles.
Isaac, l'autre sujet qui préoccupe Donald Trump et les Américains, mais aussi les Israéliens, c'est bien évidemment l'Iran. Le président américain semble souffler le chaud et le froid dans ce dossier. Est-ce une véritable hésitation de la part de Donald Trump au regard des conséquences qu'une opération militaire américaine pourrait avoir dans la région, au Moyen-Orient? Ou pour vous, la décision est déjà prise, les États-Unis feront bientôt tomber le régime iranien et frapperont l'Iran, comme le croient les responsables sécuritaires en Israël?
Écoutez, je crois qu'il y a une seule personne au monde qui sait exactement ce qu'il a envie de faire avec l'Iran, c'est Donald Trump, et je suis pas sûr que son avis le lundi soit le même que celui du mardi. Donc, je l'ignore. La semaine dernière, dans l'émission Chercher l'erreur, je m'interrogeais sur la réalité de l'intervention américaine. J'en doutais beaucoup parce qu'il ne me semblait pas que une condition essentielle à l'intervention américaine était remplie. C'était des failles dans l'appareil sécuritaire, dans l'appareil répressif iranien. Il n'y a pas eu de défection, pas plus chez les Basij que corps des gardiens de la Révolution, et l'armée est restée muette. Donc il n'y avait pas quelque chose qui laissait penser que le système répressif était susceptible de tomber et de faire pencher la balance en faveur des protestataires, en faveur de ceux qui veulent ce changement de régime. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles les Américains se sont abstenus. Et puis il y a d'autres raisons, le fait que les responsables militaires américains ont estimé que la présence militaire dans la région était insuffisante pour protéger les bases américaines présentes dans la région, et en même temps que l'allié régional israélien des potentielles représailles iraniennes, et qu'il fallait renforcer ce dispositif militaire dans la région parce que pour l'instant les flottes américaines se trouvent soit dans la mer des Caraïbes après l'affaire de Venezuela, soit en Asie orientale, et le temps de faire revenir ces escadres, en particulier l'USS Lincoln avec toute son escadre de l'Asie orientale vers la zone proche orientale, ça prend du temps, ça prend une semaine. Il est possible qu'il nous faille attendre qu'une semaine avant de voir à nouveau, d'entendre à nouveau le président américain entonner des menaces, reprendre à son compte les menaces qu'il a eues jusqu'à mercredi dernier. Il y a aussi, et ça, c'est quelque chose qui n'est pas impossible, des négociations en coulisses, après que Kouchner ait assuré le président américain, je ne sais pas sur quelle base, que le régime iranien, qui a d'ailleurs démenti, avait cessé d'assassiner les opposants, qu'il n'y ait pas des négociations secrètes qui commençaient avec les Iraniens, avec des préconditions très très solides des Américains sur le programme balistique, sur le programme nucléaire et également sur le financement par l'Iran de ses proxys dans la région. Il n'est pas impossible que il y ait dans l'administration américaine le choix qui aurait été fait de la diplomatie plutôt que de la force militaire. Tout est possible. Tout est possible. Ce qu'on n'a pas observé, ce qu'on a avorté la semaine dernière, mercredi, après une conversation aussi avec le Premier ministre israélien qui disait au président américain que la sécurité d'Israël n'était pas absolument garantie, alors que ça fait des années, peut-être même des décennies, que c'est un rêve humide du Premier ministre israélien de voir les Américains être à la manœuvre pour intervenir militairement contre l'Iran. Vous imaginez un Premier ministre israélien, en particulier un nationaliste héritier de Jabotinsky et de Begin, dire non, il faudrait surseoir à cette opération. C'est que donc, la sécurité du territoire israélien n'était pas parfaitement hermétique, pas parfaitement assurée, compte tenu du fait que depuis 2 ans, eh bien, l'armée israélienne a puisé largement dans ses réserves de missiles antimissiles, par exemple. Et donc, on ne peut pas savoir ce qu'il adviendra la semaine prochaine. En tout cas, ce qui paraît certain, c'est que les Américains n'abandonnent pas l'option militaire et en témoigne le fait qu'il y a cette escadre qui approchera dans la zone dans les jours prochains, et on reparlera de cette option militaire, il n'y a aucun doute, dans la semaine prochaine.
Isa Franco, je vous remercie d'être intervenu sur notre antenne.
Avec plaisir, Jonathan.